Chers amis, trois foireux, on se retrouve pour notre deuxième dossier du jour, Jean-François Revel face aux gangs de la culture, avec Jean-François Revel bien sûr, plus Patrice Carmouze, Philippe Tesson et Frédéric Becbédé. Jean-François Revel, bonsoir.
Bonsoir.
Signale simplement à nos amis téléspectateurs, Jean-François, c'est tout. J'ai un indice à trouver. Hein. Bien, alors je vais tout de suite montrer votre livre et Patrice Carmouze va en parler, pas tout au boulot.
Ah ben si vous voulez, alors ça s'appelle Les plats de saison, on pourrait presque prendre le titre au premier degré parce que dans Les plats de saison, c'est vrai que vous parlez aussi des restaurants que vous fréquentez, hein. De temps en temps, il va chez Allard, il va chez Pierre, etc.
Du marché qu'il fait.
Oui, il dit parfois d'ailleurs que les salades et les crudités françaises sont devenues fades. N'en déplaise, ajoute-t-il perfidement à José Bové. Ouais.
Hein. Les radines piquent plus.
Les radines piquent plus.
Ah oui, c'est très grave.
C'est la phrase du livre.
Non. La phrase du livre, c'est celle-là, c'est page 26. Un cassoulet est sublime ou n'est pas.
Oh.
C'est mal russien.
Il faut pas mettre des langoustines. Au frigidaire.
Oui, c'est vrai, il ne faut pas qu'elle soit trop glacée.
Je crois que c'est vrai, tout ça.
Oui. Qu'elle soit fraîche.
Bon,
c'était donc la minute culinaire de Jean-François.
Je me trompe beaucoup sur les sujets politiques, littéraires, culturels, mais en matière gastronomique, non, je crois que je suis infaillible.
Oui. Alors, il parle de gastronomie, mais c'est quand même bon. C'est quand même le journal de l'année de l'an 2000. Vous savez, c'est cette collection qui avait été inaugurée par Vinocq, dans laquelle il y a eu Julliard, il y a eu Solers, etc.
Alors,
Vinocq lui-même qui a commencé, hein.
C'est ça.
Alors, il prévient d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'un journal intime, mais de la chronique des événements nationaux, internationaux, culturels, politiques, parmi lesquels il choisit ce qui le frappe, ce qui le chagrine, ce qui l'amuse. Mmh. Alors, évidemment, il y a énormément de sujets de débat ou de conversation, et il y a toujours, comme chez lui, une structure très forte de pensée, une logique très forte, qui lui permet d'avoir une totale liberté. Alors, liberté à l'égard des modes, à l'égard des médias, à l'égard des autres, et, évidemment, puisque son système, justement, consiste à ne pas avoir de système, à s'évader de cette tentation totalitaire dont il dit qu'elle nous hante tous. Alors, on pourra lui faire peut-être des reproches. Hein. Certains diront qu'il est un peu réac, qu'il finit à droite, d'autres qui diront que ce profondeur d'utopie, au fond, est un utopiste qui s'ignore. Et qu'il est peut-être injuste avec la gauche, etc. Bon, ou aveuglé par sa défense du libéralisme. Enfin, on va bien voir ça. Peut-être que la première question qu'on pourrait poser, c'est justement ce journal de l'an 2000. C'est un journal. Mais est-ce que c'est particulier de faire un journal de l'an 2000, justement ?
Alors, en effet, c'est un peu un hasard que je sois tombé sur l'an 2000. Michel Vinocq m'avait demandé depuis assez longtemps de faire l'un des journaux de sa collection. J'avais auparavant des engagements. J'ai écrit mes mémoires, le voleur dans la maison vide, puis la grande parade, et donc il se trouve que l'an 2000 était l'année où j'avais le loisir de le faire. Ça m'a beaucoup amusé parce que c'est la première fois que j'ai écrit un livre sans aucune structure. Avant, il faut construire un livre. Mm-hmm. Et là, au contraire, vous notez au jour le jour vos réactions, etc., devant un match de football, devant les fêtes. De
commémoration,
comme on dit en français, du millénium.
Oui.
Et donc, ça m'amuse au jour le jour, ça m'a décontracté complètement. Et c'est ça qui.
Et vous ne l'avez pas réécrit, hein, vous le dites.
Ah non, j'ai corrigé. Quelque...
Oui.
C'était relu par Michel Vinocq lui-même, j'envoyais tous les trimestres ce que j'avais fait, par Laurent Tess, qui, chez Plon, qui est coéditeur, etc. Et donc, je corrigeais. Des erreurs de fait,
oui,
il y en a encore
d'ailleurs.
Et puis des mais je non, la règle du jeu, c'est que il ne faut pas réécrire, un journal doit être spontané, donc voilà.
Ah, c'est un patch, moi j'ai comme ça que je le prends, c'est un patchwork, comme on dit en français, d'édito du jour.
Ouais.
C'est plus vrai, enfin il intervient sur tout. Alors, avec, je dirais, contrairement à ce que dit Patrice, avec quand même une structure, en fait, je n'avais pas dit,
une cohérence de pensée,
qui exprime un libéralisme totalitaire à toutes les pages. Alors, il y a les éditos.
Ah, bah dis donc ça, je suis content qu'on soit d'accord.
Oui, mais j'adore. Il y a les éditos, il y a les fusées, quoi, les impressions, hein, que la vie quotidienne provoque chez lui, cette espèce de sensibilité d'humeur. Il le dit lui-même, est-ce que c'est l'âge ? De temps en temps, il a quand même un moment de lucidité. Est-ce que c'est l'âge qui m'aurait rendu un cariâtre ? Il râle absolument contre tout. Et c'est ça qui est délicieux, quoi.
Non, il y a aussi des choses que j'adore, quand même. Bon. Mais, alors, disons, justement, le plaisir pour moi en tant que ex-philosophe, d'avoir toujours construit des livres architecture méditée, c'était, enfin, je me laissais aller au jour le jour, je vois un match de football, je vois ceci, cela, bon, des feux d'artifice au cours de la fête de l'an 2000, et puis quand même beaucoup de choses dans la vie politique française, internationale ou culturelle qui effectivement me stimulent, et pas seulement à propos de la cuisine, parce que le plat de saison est un titre oui. qui a été trouvé par Michel Vinocq. Bon, j'ai approuvé parce que ça a un double sens, mais c'est pas uniquement un livre de cuisine.
Non, pas même. Tout à fait.
Non. Ça pourrait l'être, ma femme.
Justement, on va commencer par le début, parce que vous dites, c'est la première page, de l'avantage, samedi 1er janvier, l'avantage des catastrophes naturelles est qu'elles permettent parfois de réduire les catastrophes culturelles. Alors, vous avez vécu comment ces cérémonies du passage à l'an 2000 ?
Vous savez que le début de l'année, à l'époque de Montaigne, c'était le 1er mars. C'était pas le 1er janvier. Pourquoi
c'est stupide.
Le calendrier inventé par les hommes devrait-il commander les lois de l'histoire?
Moi, je vais, puisque vous êtes normalien, agrégé de philo, hein, je vais vous.
Il n'y a qu'académicien.
Je vous titille sur un plan purement maïeutique.
Oui.
Hein, c'est pour savoir si, au fond, vous ne regretteriez pas la chute du communisme. Parce que vous aviez un fonds de commerce génial, là. Vous pouviez râler là-dessus.
Alors,
et
voilà.
Au fond, ça, là, maintenant, vous êtes passé du côté Cassandre au côté, finalement, défenseur du libéralisme qui est au pouvoir.
Alors, c'est. Non, il n'est pas au pouvoir du tout.
Pas au point que vous le souhaiteriez.
Oui. On va venir après ça.
Phénomène. C'est la survie du communisme ou de la vision de l'interprétation communiste. Bon. Alors, vous voyez, c'est une chose qui est extrêmement curieuse, ça. En effet, c'est une objection qu'on me fait très souvent. En vertu de quel phénomène les gens qui ont passé leur vie à combattre le communisme seraient-ils consternés de son effondrement, alors qu'au contraire, ceux qui l'ont toujours défendu seraient ravis? Non. Moi, personnellement, vous savez, j'étais de gauche dans les années 50-60, puis je me suis aperçu à la fin des années 60, et quand j'ai écrit Ni Marx ni Jésus en 70, que bon, le socialisme avait fait faillite partout, dans les pays du socialisme réel, dans le monde en voie de développement, et aussi dans les pays développés où on avait essayé de l'appliquer. Bien. Donc, j'ai essayé de le démontrer, j'ai écrit la tradition totalitaire, et finalement, il semble que les événements m'aient donné, pas seulement à moi,
oui.
Il y a d'autres très grands esprits et mes maîtres qui l'ont dit, nous ont donné raison. Pourquoi serais-je navré?
Ah non, non, c'est pas ça que je dis.
Non, les fonds de commerce, mais pas du tout.
Non, c'est qu'aujourd'hui, vous avez l'air d'être plutôt dans un camp de défenseurs au lieu
qu'autrefois
vous étiez attaquant.
Je suis dans un camp d'affirmeurs, pas du tout de défenseurs.
Mais, par exemple, dans la Grande Parade, vous disiez que l'idée communiste, elle est encore, bizarrement, disons, après la chute du mur, très présente. Or, quand on voit, par exemple, l'effondrement du Parti communiste en France au municipal,
oui.
Est-ce que vous n'avez pas exagéré, au fond, cette continuité de la présence du communisme?
Ce qui m'intéresse, moi, c'est le fonctionnement de l'esprit humain. Bon. Pourquoi, par exemple, quand j'ai créé la tentation totalitaire, pourquoi est-ce que des gens qui vivent dans des sociétés démocratiques veulent-ils absolument se soumettre à des dictatures? Souhaitent-ils l'arrivée d'un régime dictatorial? Bon. Alors, certains, on comprend pourquoi, c'est parce qu'ils veulent exercer la dictature. Mais ce qui est plus mystérieux, c'est que d'autres veulent la subir. Bon.
C'est les grenouilles qui demandent un roi.
C'est reposant. Oui. Quand on voit les réactions des citoyens d'Allemagne de l'Est qui regrettent l'époque où ils gagnaient 60 francs par mois, mais où ils étaient sans aucune responsabilité et qui pensaient qu'ils allaient avoir 6000 francs par mois toujours sans aucune responsabilité, on se dit finalement ils préféraient le confort antérieur. Bon. Et là, la grande question. Alors, pour la grande parade, ce qui m'a intéressé, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas du tout tel ou tel problème politique concret, c'est comment fonctionne l'esprit humain. Alors, le communisme s'effondre en tant que réalité politique. Il n'y a plus de choix. On ne peut plus dire, maintenant, on va essayer d'implanter en France une société soviétique. Bon, puisqu'il n'y en a plus. Et néanmoins, des gens continuent à défendre ce modèle. Quand est sorti... Non, quand est
pas
sorti le livre...
Pas grand
quand, ah, non, là, trompez-vous. Quand est sorti le livre noir du communisme, quel ruée pour le monde... Puisqu'on parlait, vous parlez de Monde, le journal Le Monde a cherché à déconsidérer complètement les auteurs en disant falsification, ils aident le Front National, etc. Enfin, mais pourquoi ? Ils sont fous, quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais d'accord, mais ça, c'est le passé, c'est le passé. Moi, je parle maintenant d'aujourd'hui, le monde actuel, qui est un monde donc dominé par des marques multinationales. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent, qui s'inquiètent même sur la destruction de l'environnement, sur la pollution physique et mentale.
Alors, très bien, etc., l'environnement. Etc.
Et puis il y a Danone, et puis il y a lui.
Qu'on aille chercher les cimetières nucléaires ex-soviétiques.
C'est vous qui ramenez toujours l'Union soviétique.
La mer d'Aral.
Ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, les deux pays les plus pollués du monde sont la Chine et l'Inde. Bon. Et on attaque toujours les pays développés. C'est pas vrai. Vous savez très bien que les automobiles, par exemple, ont fait des progrès considérables dans la non-pollution dans nos pays à nous. Bon.
Donc vous trouvez que tout va bien, quoi.
Non, j'ai jamais dit ça. Justement, je passe mon temps à dire le libéralisme n'est pas l'inverse du socialisme. Le socialisme était une doctrine qui disait nous avons une solution parfaite. Si vous appliquez notre recette, tout sera parfait. Et donc, quand il s'adresse aux libéraux, vous avez la solution parfaite en sens contraire. Non, nous, libéraux, on n'a pas de solution parfaite. On dit simplement que le socialisme a fait faillite partout, bon, y compris dans la pollution. Regardez le lac Baïkal, etc.
Et la mer d'Aral.
Tout à fait exact.
Et l'Allemagne de l'Est polluait plus en un jour que l'Allemagne de l'Ouest en un an.
Bon. Et Tchernobyl.
Et Tchernobyl et compagnie, bon. Et donc, mais pas du tout, le libéralisme n'est pas du tout. C'est un truc empirique. Quand Adam Smith a écrit La richesse des nations, il a dit, comment se fait-il que certaines nations soient plus riches que d'autres ? Comment s'y sont-elles prises ? Il n'a pas de recette absolue. Non. C'est ça qui est très important, il faut bien comprendre. C'est pas le libéralisme n'est pas le socialisme à l'envers. Le socialisme était une doctrine qui voulait s'appliquer autoritairement. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, on vous envoie au goulag, etc. C'est pas toujours la même chose.
Non, mais disons qu'en lisant Les Plats de Saison, on a quand même le sentiment que vous avez un prisme de réflexion qui vous amène souvent à voir d'un côté favorable. Je pense par exemple aux OGM. José Bové
milite contre les OGM. Pourquoi résister à la recherche scientifique ?
Mais pourquoi faire confiance a priori à la
science ? Mais je n'ai pas fait confiance a priori. J'ai dit on a le droit d'expérimenter.
Oui, c'est vrai.
Ça n'a rien à voir.
Il est très possible que dans 10-20 ans, on s'aperçoive comme pour
mais
la vache folle.
C'est très possible. À ce moment-là, on en tiendra compte. Bon, mais c'est pas Lysenko.
Moi, je trouve ça aussi.
Lysenko, c'était autre chose. Bon, vous comprenez. Il se trouve que depuis le néolithique, on n'a pas cessé de créer des espèces nouvelles. Si on n'avait pas croisé les blés, vous n'auriez pas de pain chez votre boulanger, car le blé néolithique n'était pas panifiable.
Ce qui est râlant, c'est que plus un pays est pauvre, plus les radis de ce pays piquent.
Non, je ne suis pas sûr.
Ce qu'on peut dire sur les OGM, en tous les cas, c'est que ce qu'on peut dire sur les OGM, c'est qu'il faut les racheter chaque année chez Monsanto. C'est ça le problème, quoi.
C'est ça, oui. Il y a aussi ça. Oui, ouais. La privatisation du monde. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, que quand même, il y a là un numéro de Technicard qui est très intéressant sur intitulé Marque Attaque. Où on voit comment Nike, par exemple, délocalise, pour investir en pub tout leur argent, ils délocalisent en Asie du Sud-Est la fabrication de leurs produits. Ça, c'est un produit du capitalisme. C'est le capitalisme le plus sauvage qui consiste à, pour augmenter, maximiser ses profits, envoyer ça à l'étranger.
Vous êtes pour le développement des pays pauvres ou pas ?
Oui.
Alors pourquoi voulez-vous qu'on décolle pas chez eux ?
Bah, je sais pas, parce que là, ça crée des licenciements chez
c'est
nous.
C'est prodigieux, ça.
Hey, t'as trouvé un dur, là.
Là, il est dur.
Là, t'as trouvé un bon, là.
enfin, ils ont la possibilité de gagner leur vie par eux-mêmes et non pas uniquement grâce à des subventions du FMI. Enfin, et vous êtes contre.
Vous avez inspecté ces usines, comment les gens travaillent, les enfants qui travaillent.
C'est autre chose. Mais là où c'est le pire, c'est en Chine, pas à Singapour. Ou en Thaïlande.
Si, aux Philippines.
Aux Philippines, beaucoup moins dur qu'en Chine. Bon, aux Philippines, ils travaillent comme on travaillait en France
au 19e.
En 1925. Ouais. Non. Et
non, est-ce que vous pourriez de temps en temps dire vous pouvez me dire que j'ai raison de temps en temps.
Non.
Moi, je vous dis tout le temps que vous avez raison.
Ah, non, pas du tout. Vous avez raison. Ça pose des problèmes.
Voilà.
Etc. Mais je crois que c'est là qu'est la source du développement. Et qu'au contraire, là où vous avez des survivances du système socialiste, c'est-à-dire en Corée du Nord, en Cuba, où le revenu moyen est de 60 francs par mois, et en Chine, où vous avez 5 millions de bagnards dans les camps, bon, toutes les trottinettes, que nous avons offertes à nos enfants, à nos petits-enfants à Noël, étaient fabriquées par des bagnards chinois.
Eh bien voilà, on est obligé d'en rester là.
Je voudrais juste vous offrir ce livre.
Ben oui, bien sûr.
Révélation de Denis Robert, où il va vous révéler quelques petites choses sur les chambres de compensation au Luxembourg qui permettent.
Oui. D'argent à l'échelon international. Voilà.
Alors, ça, justement, il faut le faire. Ce qu'il y a, si vous voulez, en France, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'État. L'État est un instrument.
C'est nouveau, là.
Ça,
c'est
cambriolage.
Vous êtes étatiste ?
Non, attends.
Oui, je suis étatiste. Je suis étatiste. Mais bien sûr.
Attends. On est le 1er avril ou quoi ?
Attends.
Mais non, je suis étatiste, mais l'État ne remplit pas son rôle en France, n'assure pas la sécurité sur les routes, n'assure pas la sécurité dans les villes, n'assure pas le bon emploi de l'argent public, et au contraire, pille l'ensemble.
Évasion,
etc. Et puis les soi-disant services publics. Bon.
Mais ça, vous n'êtes pas très tendre avec les services publics.
Bien, je suis désolé. Voilà. Je suis désolé parce que là, on était parti pour durer 2 heures.
Oui,
mais voilà. C'est des contraintes. Bah oui, c'est fini depuis longtemps. Il y a des contraintes, je suis désolé.
Mais les contraintes sont toujours.
Les contraintes de temps, on était très heureux de vous voir. Ben voilà, maintenant, voilà. Si vous êtes sur votre fin, comme on est sur notre fin, lisez le bouquin Les Plates Saisons.
Il n'y a pas de libéralisme intelligent et parfait sans quelques contraintes.
Oui.
Nous sommes d'accord, non ?
Mais non, le libéralisme exige un État très fort, un État de droit qui impose la loi.
Une nouvelle loi.
Vous avez ouvert des nouvelles pistes à Frédéric Becbédé dans sa réflexion. Non, mais je ne plaisante pas, Frédéric.
Dans l'illégalité, voire la Corse, n'a pas d'intérêt. Et ne mène qu'au malheur.
Merci Jean-François Revel. Donc je rappelle le titre de votre livre, Les Plates Saisons. Donc c'est son journal de l'année 2000. C'est publié, c'est une coédition, Plomb le Seuil. Donc c'est la collection de Winock. Hein, et non pas Winock comme disent certains.
Dans le Nord, on dit Winock.
Bah oui, on dit Wassing, bien sûr, on dit Wagon.
On dit
chez
alors,
RDRG spécial Fête de Pâques, c'est fini.